Georges Bernanos, Madame d'Argent. En exergue. Un poète connu, compris, classé, catalogué, tigi imprimé dans les rayons de cette stérile bibliothèque de l'école normale, et qui ne serait point quelque part ailleurs, qui ne serait point couvé dans quelque cœur, est un poète mort. Charles Péguy. Oh, elle ne se rend pas compte, dit-il, elle ne se verra pas mourir. Ainsi parlait l'illustre écrivain, mon maître, sur le seuil de la porte. Pour qui le connaît, cette courte phrase d'une vulgarité si décisive exprime à merveille la déception d'un cœur sensible devant un dénouement sans grandeur. Après avoir remué, retourné, flairé tant de belles mortes pour livrer les plus touchantes à notre curiosité passionnée, le célèbre romancier ne pouvait se faire aucune illusion sur sa propre femme. Elle se voyait pas mourir, si jamais, probablement, elle ne s'était jamais sentie vivre, ayant donné l'exemple de la plus silencieuse vertu. Des trahisons notoires, consommées avec un élégant génie, des scandales sans nombre, enfin mille blessures, n'avaient pas entamé un système nerveux si compact que les investigations les plus savantes et les plus profondes encore de l'agonie. En un mot, elle mourait sottement, et aucun curieux, aussi curieux que on le pense, on se lasse de retourner du pied un demi-cadavre et qui se détruit sans souffrir. L'éminent maître referma la porte derrière lui, moi, me donnant sans doute en tous les diables. Et comme il tirait sa montre, il entendit sonner minuit à Saint-Thomas-d'Aquin. Alors il fit un pas vers sa chambre, à coucher, et deux pas vers la chambre de l'agonisante. Ces deux pas le portèrent d'un coup bien plus loin qu'il n'avait jamais rêvé d'aller. Un seul petit détour, puis vous décide ainsi d'un long avenir. Mon Dieu, chacun pourrait, dès à présent, rêver à cette histoire, l'embellir à son gré, à proportion de l'activité de son démon intérieur, car elle n'est pas de celle qu'on raconte avec une affligeante précision. Voyez le lit de Marie d'Argent. Il a été dressé dans le bureau du maître, plus vaste, et dont les fenêtres s'ouvrent sur un calme jardin. Contre la bibliothèque, dans un fauteuil de cuir, la sœur garde-malade s'endort. Au rond du foyer, tout repose alentour, sauf un petit cœur tendu qui veille et ne veut pas mourir. L'illustre visiteur a préparé son compliment du soir, mais il parle encore très net, cloué sur place par deux yeux immobiles et qui fixent sur lui, du fond de l'immense oreiller, un regard trop vivant. Alors, il sent son bras droit happé par une petite main farouche, tandis que l'autre, saisissant au vol le collet du veston, l'attire tout près, plus près, jusqu'à la bouche entr'ouverte. La buée de la fièvre subsiste encore, étrangement, le parfum jadis familier le frappe au visage. Pendant qu'il écoute cette phrase surprenante, plutôt parlée, peu épelée que parlée, Charles, je ne peux pas mourir. On lui a fait sa piqûre, souffle la sœur. Et elle va se figurer fatiguée à parler. Dieu sait, ne l'écoutez pas trop longtemps. Ayant dit, elle disparaît d'un pas feutré, en soupirant, les mains croisées, irréprochable et compatissant. La porte se referma sur elle, sur ce dernier témoin, et le plus beau ténor de la littérature contemporaine sentit vraiment seul, seul, pour la première fois de sa vie. Je ne peux pas mourir, reprit l'agonisante sur le même ton. Oh, Charles, c'est bien plus affreux que je ne croyais. On espère que cela va finir. Et hors de soi, comme par une vague de fond. Oh, mes pauvres os sont creux, légers comme des plumes. Au-dedans, dans cette affreuse tête de plomb, oh, j'essaye de me tromper moi-même. Rêver que je m'endors, que j'oublie, que je glisse. À quoi bon? Jamais ma pensée n'a été plus lucide, ma mémoire plus active, merveilleusement, dans une lumière crue, aveuglante, implacable. Oh Charles, je n'en finirai jamais de mourir. Il a écouté ces étranges paroles avec une surprise croissante. Mais la dernière plainte, si naïve, réveille en lui quelque chose de plus fort que la pitié, un certain accent dans la faiblesse, un cri d'appel à la conscience virile. Déchire n'importe quel homme. Elle s'est retournée vers la ruelle et l'ose regarder à travers de vraies larmes. Qu'elle est jeune encore, 40 ans, et blonde. Comment? Il l'a aimée, eu être deux, ils ont vécu côte à côte. Oh, stupeur! La première fois, il s'aperçoit qu'elle a été tout pour lui, mais qu'elle était une étrangère, une mystérieuse étrangère. Mais d'où revient-elle à présent, la vagabonde? Quelle trame inconnue achève-t-elle de tisser? La petite main de cire qui frémit à présent, le doigt à faire inoffensive sa tâche accomplie. Reste là, dit-elle, reste là toute la nuit. Il y a d'ailleurs une grande étendue d'eau, poursuivit-elle, beaucoup de gravité, oh, ça doit être un lac. Impossible d'aller plus loin pour aujourd'hui. Attends, attends que je me referme. Oh, 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 oh. Elle se penche en avant, en effet, puis elle se rejette en arrière avec un gémissement contenu, profond, plus terrible que le cri. Mon Dieu, Hélène! Bredouille naïvement les 1000 mètres. Allons, allons, calmez-vous! Elle pose sur lui un regard indéchiffrable, étrangement attentif et limpide, mais où passent et repassent les grandes ombres de la catastrophe intérieure. C'est que je me suis vue, dit-elle, dans l'eau. Elle se tait, s'apaise. Sa petite main moite et légère de son mari, il la guette à la dérobée. De longues minutes s'écoulent. Littéralement, il s'assoupit d'inquiétude, de pitié, d'un lourd et indéfinissable ennui. À présent, l'air du dehors glisse avec lenteur dans l'atmosphère compacte et fade de la chambre. Le vieux jardin rôde et flotte autour de la fenêtre entr'ouverte. Et même l'odeur des œillets, plus agile au bout de sa trajectoire invisible, vient mourir auprès du lit. L'horloge sonne 1 heure du matin. Il se dresse lentement, lentement, lentement. Il a dégagé ses mains à demi. Le voilà debout, retenant son souffle, les yeux fixés vers la porte. Pas trop tôt. Déjà, les doigts de la mourante sont liés aux siens. Et il voit sur lui ce même regard vivant, sérieux, imperturbable. « Reste encore, dit-elle, reste toujours. Me croyais-tu déjà morte? Je réfléchis, non, seulement... Est-ce que ça peut s'appeler réfléchir? Il y a dans ma tête une vide effrayant, et toute ma vie se reforme là, murmure-t-elle en se frappant le front, ligne par ligne, à chaque seconde, un nouveau souvenir secret. Le plus ancien, le mieux dissous dans le passé, comme une bulle d'air revient et vient crever à la surface. Suis-je morte? Seulement à mesure que je me détruis, un autre être se reforme plus haut. Et j'ai vu tout à l'heure son visage. Et c'est comme si je devais le voir toujours. « Mais c'est la fièvre, ma pauvre amie, dit-il. C'est la fièvre de minuit, demain matin. Ah non. Oh, s'écria-t-elle, demain matin, je ne veux pas voir un autre matin. La grande affaire se fera cette nuit. Tu peux bien tout de même me donner... une heure de ton temps, poursuit-elle avec une rage croissante. Tu vas pas me laisser là à la minute décisive. Oh, je ne t'ai jamais aimé. Oh, tu ne m'as jamais aimé. Eh bien, tu seulement regardais. S'il y avait un autre monde, tu m'y reconnaîtrais pourtant. Parce que je suis toi-même. Comprends-tu? Toi-même. Et elle ajoute gravement ce mot profond dans un prochain avenir, allait révéler au malheureux la trop parfaite justesse, la diabolique simplicité. Ce que tu as rêvé, je l'ai vécu. Ce que j'ai rêvé, dit-il, mais qu'est-ce que j'ai rêvé? Oh, ne fais pas l'ignorant, s'écrie-t-elle dans un sinistre éclat de rire. Tu le sais bien, je t'ai tellement aimé, comme si insensiblement tu m'avais repoussé de moi-même, doucement, sans violence, et tu ne m'aimais déjà plus. Alors je me suis tue d'abord, et puis j'ai senti que je me tairais toujours. Je ne pouvais plus. L'humiliation la plus étrange n'aurait pas à trancher un cri sincère. Ah, c'est une habitude comme une autre. Mais j'ai encore autre chose à te dire. Donne-moi de l'eau. Elle boit d'un trait, le verre roule sur le parquet et tombe et se brise. Te rappelles-tu notre voyage à Tolède et l'allée des jasmins derrière le cimetière de Novio? Un soir, oh, c'était un soir comme celui-ci, presque trop beau, d'une beauté aussi déchirante. Lorsqu'on retient son souffle pour entendre sonner une heure parfaite, irréparable, je lisais un de tes livres. Cette phrase de Madame de Rouget me sauta aux yeux. Je passerai dans la vie, dédaignée, silencieuse, invisible, n'importe. Tu ne m'as pas aimé qu'un instant, mais tu ne sauras l'effacer du passé. Tu ne rattraperas pas ton mensonge. Le mal que tu as fait, c'est ton enfant, c'est notre enfant, le fruit affreux de la trahison, le petit monstre. Vivant, gonflé de sang de mon cœur. Voilà ce qui va grandir à tes yeux, à tes côtés. Voilà ce que je pourrais pour toi. D'autres vont camper dans ta vie, mais moi, j'y demeure. Oh, tu pourras bien en descendre. Le cours jusqu'au bout, tu ne m'échapperas pas, parce que je t'ai empoisonné la source. Oh, Charles, un seul mot révèle beaucoup de choses. Elle aidera ses pavants. Alors, je compris. Vers quelle cruelle part je pouvais étendre la main du fond de ta bassesse et du silence. Il n'y a pas d'amour malheureux, il n'y a que l'amour qui renonce, et je n'ai pas renoncé. La fière petite main s'élève et retombe, trace en l'air le signe du commandement, puis elle penche vers lui la tête d'un geste lugubrement mutin. et d'une oreille soulevée, monte l'haleine du sépulcre. Hé hé! Si je pouvais te dire, oh, je ne sais pas, je ne suis pas une femme comme les autres. Plus d'un coup, j'ai écarté l'obstacle, à moi toute seule. Et elle répète plusieurs fois, à moi toute seule, en baissant la voix jusqu'au silence. Puis elle reprend une voix changée, en un ton égal et rapide, uniforme, extrêmement douce, de rêve. Laisse-moi prendre le bout du sentier, que le soleil est lourd, de Nice à la côte amérifricaine. On pourrait rouler en vague sur une écume d'argent. Regarde-moi bien. Oh, ils diront que je suis folle, mais tu ne le croiras pas, tu ne l'oseras point. Réponds-moi donc, sais-tu qui je suis? Toutes celles que tu as rêvées, plus chères que des vivantes. Madame Gaviola, Monique, Mademoiselle de Sergy, et la fille du vieux Cambrai, les héroïnes de ton théâtre et de tes romans. Voilà mon partage, voilà ce que je fus. J'avais lu tes livres, moi, et je les ai poursuivis, ces femmes, dans les livres, avec curiosité dévorante. Tu ne leur avais donné, avec tout ton génie, une existence douteuse, une forme impalpable et légère. Et je leur ai donné, moi, mieux, un corps, de vrais muscles, une volonté, un bras. Mais pouvais-je t'aimer mieux? Pouvais-je me glisser en toi plus profondément? Par un détour plus fin, je me suis donné à elle comme Madame de Brinvilliers s'est jadis donnée au diable. C'est Sergine de Préville qui me prêtait ses aiguilles et sa morphine. C'est Madame de Nolles. Oh, je tiens la danseuse hindoue un soir. J'ai pris le cœur calme et féroce, et c'est Louise de Trailles, ou moi, je ne sais plus, qui t'a versé le poison lorsque... Mais j'ai été bonne, patiente avec Louise de Gredin, chaste avec Henriette, même dévote avec Madame Mauvat. Oh, j'étais entre leurs doigts, comme dans les doigts du modeleur. Quel vertige! Quelle ivresse! On ne me regardait même pas. On disait avec pitié, cette bonne Madame d'Argent. Je me taisais, je passais. Ah! Si on avait su, il n'avait de ton œuvre que le reflet, s'il avait vu en moi resplendir et se consumer, elle se renverse sur l'oreiller avec un rire déchirant. Certes, ses confidences écrites pour le lecteur en noir sur du papier blanc, ne peuvent pas paraître autre chose que les faciles imaginations d'une maniaque agonisante. Mais l'éminent maître, lui, connaît certains faits encore mystérieux et de troublantes cadences. Pour la première fois, il les relie entre elles. Les grandes lignes dans la lugubre synthèse apparaissent tout à coup comme la première ébauche d'une substance chimique encore énorme, informe, qui se rapproche lentement de sa condition d'équilibre. L'évidence se lève dans son cœur. Resplendir et se consumer, répète-t-elle encore, les yeux clos. S'il y avait une autre vie, je voudrais la vivre avec elle, ces filles tragiques, sans autre dieu que la forte sève de leurs veines, insatiables, âpres, hardies, libres comme des bêtes. Comme tu les as fournis d'audace, que tu leur as prêté de vices, combien de crimes ingénieux dont vous avez ensemble caressé la pensée, et qu'elles m'ont été fidèles, car il serait dur de marcher seul dans la route aride et maudite. Mais à chaque obstacle, c'était l'une d'elles qui se levait, en même temps droite, impérieuse, et qui me fixait d'un regard animal. Rien ne pouvait plus m'arrêter. Leur audace et mon audace connaissaient le danger, et quelquefois je faiblissais, je tremblais dans leurs mains si fermes. Alors, elles entraient en moi, elles agissaient pour moi. Oh, oh, sans Louise Trailles, crois-tu que j'aurais vu mourir sans remords le petit homme blond, si calme, si pensif, buvant l'affreuse chose dans son bol de faïence, et qui me souriait encore en s'essuyant la bouche de son poing petit et fermé. Cette fois, elle a frappé juste au choc de l'horrible image. Il réagit de toutes les forces de l'instinct. Son cerveau, pour lui, peut lui fournir encore de belles raisons de ne pas croire, de douter au moins, mais il ne les reconnaît pas, il ne songe pas qu'il parle à une folle qui ne peut discuter ni répondre, et qu'elle emportera son secret. Non, au plus profond de lui-même, il a senti qu'elle disait vrai. « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» s'écrie-t-il. « Quel enfant !»« Mais le tien, » dit-elle. « Folle !» C'est tout ce qu'il doit dire. Sa bouche tremble, et devant les yeux, une grande flamme verticale, éblouissante. Il serre dans ses doigts tant qu'il peut quelque chose d'inerte et de tiède, le bras de Madame d'Argent. Il va me tuer, dit-elle avec douceur. Tu vas me tuer comme Monsieur de Piémont, sa femme, dans Nora. Allez, frappe fort. Est-ce ma faute? C'était ton enfant. Ce n'était pas le mien. Il a la sensation de descendre au creux de la vague, au milieu d'une rumeur immense. Et il dit encore, mais ce n'est pas possible, tu mens. Pas possible, tu mens, s'écrie-t-elle en s'exaltant par degrés jusqu'au délire furieux. Ah, mais tu me prends pour une bête. Ah, je serais bafoué jusqu'au bout. Pensais-tu que j'allais bénévolement élever le fils de ta maîtresse? Que j'ai jamais été dupe de cette histoire d'adoption. Tout Paris était riait de moi. Et je laissais rire. J'étais si crédule, si inoffensive. L'enfant pauvre pâture. L'enfant naturel d'un problématique ami mort à Tunis. Quoi de plus simple, de plus invraisemblable? Cette histoire, bien bonne pour moi. Et je devais encore t'admirer pour ta rare obligeance et ta bonne action. Va, va, mon bonhomme. Je savais bien tout depuis la première minute, mais tu ne vas pas me faire croire que tu aurais attendu 3 ans pour... Mais je n'osais pas. Et puis, je me souviens aussi de sa mère. Sa mère, s'écrie-t-il. Sa mère, que tu ne l'as jamais connue. Il dit que je ne la connais pas, répond-elle, en éclatant d'un affreux rire. Oh, la belle Valsinora, assassinée dans son hôtel, rue de Lille, par un cambrioleur inconnu. Et ce collier de perles à son cou, 1 million de perles, je ne sais pas. Certes, ce n'est pas un soir comme celui-ci. Non. Il y a un pied de neige dans la rue. Qu'il fait froid sur le pont royal. Quelle bise! Oh, je me souviens du quai désert et des grands arbres blancs, de l'eau. La rue des Saint-Pères, l'amical autobus, comme un manège de chevaux de bois, et qui grince et fume dans une espèce de poussière glacée. Écoute-moi bien, tu tournes à droite. Voici l'hôtel discret, la haute porte qu'on pousse. La loge claire, le couvert mis sous la lampe, c'est le sable qui grince, le perron, la chaude haleine du nid. Elle m'attend, j'ai rendez-vous. Il est 10 heures. Regarde bien. Oh oh, par terre, sur le dos, regarde, regarde bien maintenant, les hauts talons, route, joue du tambour, sur le tapis, ses beaux yeux, obscurs, fixent quelque chose au-dessus de la porte, et chaque fois qu'elle essaye de soulever le bras, Il sort de sa poitrine crevée, de l'air et du sang. Ha, ha, ha! Maintenant, vois-tu, comme au troisième acte de l'énigme. Mais je suis plus forte que Madame Géraldine. Je ne tremble pas, moi. Il l'écoute sans un geste, en silence, et son regard, en même temps que l'horreur, une indéfinissable curiosité, puis d'une voix qui défie. Mais tu perds ton temps. Je ne suis pas dupe. Il n'y a dans tout cela qu'une chose, peu de choses. Ta perfidie, secrète pensée, ta qualité, ta vanité, ton envie, ta haine. Oui, haine de 20 années. Crève-les à présent, comme un abcès. J'ai eu des torts, bien sûr, ajoutait-il avec ingénuité. Oui, c'était mon fils, je ne le nie pas. Il est mort. Cela est passé. Tu n'as tout de même pas la prétention de me laisser en partant les fantômes mauvais du mauvais rêve. Ton cauchemar. Je suis un homme sensé, moi. Quelle horreur! Comment vais-je m'attendre? M'attendre? Oh, pourquoi veux-tu empoisonner ta dernière heure et l'outrager toi-même? Et il ajoute, baissant le ton, presque tendre. Allez, repose-toi, voyons. Oublie tout ça. Je t'ai parlé trop durement, mais je ne songeais plus à ta maladie et à tes souffrances, à rien. Oh, cet idiot, tu ne sais pas le mal que tu m'as fait. Mais je n'ai pas menti, dit-elle, méfiante. Tu ne comprends pas? Ah, il ne recommence pas ses folies. Des folies? Il ne veut pas me croire. Il ne me croira plus. Oh, il est trop tard maintenant. Oh, lâche, laisse-moi mourir. Au moins, s'écrie-t-elle d'une voix enrouée et tonnante. Prends ta part de mon fardeau. C'est le secret. C'est ce secret qui me tient en vie. Il faut que je parle, que j'avoue, que j'expulse, que je me vide de ceci. Mais je n'ai pas menti, dit-elle après un silence nouveau. Une deuxième fois, l'accent de sincérité absolue, décisive, la voix posée, ferme, implacable, après l'orage des cris, le touche aux entrailles. Mais tu mens, jette-t-il. Hors de lui, ô miracle! Il a vu à peine le flot des draps et des linges soulevés, tirés au pied du lit d'un seul coup, et elle est déjà devant lui, à sa hauteur effroyable, son corps maigre, sa chemise à travers la batiste apparaît sur sa poitrine, sur ses flancs, la surprenante morsure des ventouses. Une minute, elle plonge son regard dans le sien, un regard que rien ne soutient plus, pareil à une cruelle bête lâchée, libre. Puis elle fait jusqu'à un secrétaire dans l'angle de la fenêtre trois pas saccadés. Sa main plonge dans un tiroir. L'a-t-elle pris, lancé, ou bien s'est-il échappé tout seul? A-t-il fait seul le bond dans l'espace jusqu'au pied de l'éminent maître? L'étrange objet, luisant comme une flamme, et qui fait en tombant un curieux bruit, vite étouffé. Il regarde à ses pieds, il regarde de toute son âme ce collier mystérieux, les 32 perles du duc de Rostovitch, les 32 perles célèbres, vues jadis tant de fois sur les épaules de son ami, sont là, sans, dans une buée de sang. Mais cette buée, dans ses yeux à lui, il voit à travers cette buée la folle, invincible, assise sur son lit, les deux jambes pendantes. Oui, c'est elle, le mauvais ange, la diabolique providence, son destin tragique. Alors une seconde, il n'en doute plus. Elle a tué la mère et le fils, silencieuse, implacable, discrète et sûre. Alors la colère, une colère d'enfant ou de demi-dieu, une explosion, la colère et la chambre du crime et de l'agonie, tout à coup immense, infinie, déserte, pareille à des cauchemars. Une âpre fumée l'étrangle et il jette ses mains en avant. La folle cherche à fuir, se cramponne au rideau du lit et de ses deux griffes. À quoi bon? Il pèse sur elle de tout son corps et de son élan. Il ne voit pas. Mais ses doigts voient pour lui, et à peine garde-t-il le souvenir d'une tête renversée en arrière, d'un coup qui se brise et d'un plaintif gémissement, le geste fatal, plus rapide qu'une pensée, d'un seul coup, et si vite que, dans le visage déjà rigide, la bouche amère tremble encore. On a su depuis que Madame d'Argent était morte dans une crise de délire furieux entre les bras de son mari. Depuis, l'imminent maître a repris sa course aux honneurs et à la gloire avec un vigoureux optimisme. Que craindrait-il en effet? Il ne se trouve pas deux fois dans sa vie face à face avec une créature de chair et de sang qui ressemble comme une sœur à ses rêves dont s'amuse avec leur lecteur complice une élégante perversité. Qui sait pourtant? Plus d'une image meurtrière dont l'écrivain se délivre, 10 siècles après, remue encore dans un livre. Georges Bernanos.